Europe 1.
Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite. Cette phrase de François Fillon, prononcée en 2007, alors qu'il était le Premier ministre de la France, résonne encore dans toutes les têtes. Alors que le dérapage de nos déficits publics atteint un nouveau record cette année, à l'heure où l'exécutif cherche désespérément à faire quelques 20 milliards d'euros d'économies, notamment en rabotant du côté des prestations et allocations sociales. Et il faut noter cette déclaration de Gabriel Attal, qui lui se félicite des résultats historiques de la France dans la lutte contre la fraude. Nous n'avons jamais autant traqué la fraude, affirme le Premier ministre, qu'elle soit fiscale ou sociale. Effectivement, c'est une piste qui peut rapporter quelques milliards, car oui, si nous avons encore une administration française qui tient debout et qui est super efficace, c'est celle du fisc, celle qui permet de prélever l'impôt. Là, nous sommes les plus performants de la planète. La France, au passage, est redevenue championne du monde des prélèvements obligatoires l'an dernier. Pour autant, les déficits ne se résorbent pas et le consentement à l'impôt ne cesse de diminuer chez ceux qui le payent, soit un Français sur deux, tout simplement car il repose sur une promesse de justice et de bon usage de l'argent public. Et c'est là, évidemment, que le bât blesse. On va en débattre ce soir dans Punchline.
18h-19h sur CNews et Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari.
Il est 18h, d'abord le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1. Gabriel Attal qui se félicite donc des résultats historiques en matière de lutte contre la fraude fiscale et sociale. Depuis Bercy, le Premier ministre a annoncé que la hausse des contrôles avait permis davantage de sanctions. En 2023, les mises en recouvrement ont battu des records, rien qu'au niveau fiscal, elles ont dépassé les 15 milliards d'euros. Il a tracé son sillon à l'ombre d'un grand homme. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron a rendu ce matin un hommage national à l'amiral Philippe de Gaulle, fils du général de Gaulle, décédé il y a une semaine à l'âge de 102 ans. Depuis la cour d'honneur des Invalides, le chef de l'État a également salué la mémoire d'un marin, un résistant et un élu de la République. Anthony Blinken se rend en Israël aujourd'hui, un déplacement qui survient en pleine tension entre les États-Unis et l'État hébreu au sujet des opérations menées à Gaza. Le secrétaire d'État américain va poursuivre sa tournée au Moyen-Orient. Après l'Arabie Saoudite aujourd'hui, il se déplacera demain en Égypte pour continuer les négociations de trêve entre le Hamas et Israël. Enfin, 166e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Ofer, Orion, Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles. Nous demandons, une fois de plus, leur libération immédiate et sans condition. Il est 18h02, pratiquement. On est en direct sur CNews et sur Europe 1 avec Vincent Herouet qui nous a rejoint, spécialiste de politique étrangère. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Laurence.
Vous êtes abonné aux commémorations officielles, je crois. À chaque fois que vous êtes là, nous avons un hommage national. Là, c'était à l'amiral Philippe de Gaulle. Je crois que vraiment vous êtes prédestiné pour ça.
Petit côté entrepreneur de pompes funèbres, oui.
Peut-être. Allez, Alexandre Devecchio est là aussi, journaliste.
Bonsoir Laurence.
Karim Zerébi, ancien député bonsoir, européen. Laurence. Bonsoir Karim. Tatiana Renard-Barzac.
Bonsoir.
Qui est journaliste politique, et avec Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantique.
Bonsoir.
On va écouter, juste pour le plaisir de réécouter, François Fillon en 2007. Je suis à la tête d'un État en faillite, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment on pourrait accommoder cette phrase, parce que les déficits ont tellement explosé qu'on est encore en dessous. Écoutez François Fillon.
Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça ne peut pas durer.
Voilà, ça ne peut pas durer, disait François Fillon.
Ah, si.
Ça dure, justement, c'est bien là le problème, c'est que ça se creuse, on est comme les chats d'autres, plus on creuse, on va s'enfoncer en réalité. Alors, Jean-Sébastien Ferjou, peut-être, pour commencer.
Moi, je crois qu'il y a pire que la dette en elle-même, parce que la dette est toujours un problème relatif. C'est-à-dire qu'en 1945, on était plus endetté que maintenant, en 1975, on ne l'était plus, parce que dans l'intervalle, il y a eu de la croissance.
Voilà.
Le sujet, c'est à quoi consacrons-nous l'argent pour lequel nous nous endettons, parce que c'est le vrai problème. Pour vous donner une image, si vous achetez énormément de bonbons, vous serez peut-être endetté parce que vous avez consacré tout votre argent à acheter des bonbons. Mais vous aurez un problème pire, c'est que vous aurez du diabète et des caries. Et c'est ça qui nous arrive. C'est pas tant la dette en soi, parce que la dette est un produit financier. Il se trouve qu'il y a plus de demandes pour le produit financier que représente la dette, ce qui est d'ailleurs une très mauvaise nouvelle, parce que les gens préfèrent investir dans la dette plutôt que d'investir dans l'économie réelle, parce que si 100 millions, ils achètent de la dette. Mais c'est très important de le comprendre, parce que tout le malaise européen Et là, ils préfèrent acheter de la dette plutôt que d'acheter une usine parce qu'ils ont moins d'ennuis à acheter de la dette.
J'entends,
le problème, c'est ce à quoi nous consacrons notre dette. Et nous ne la consacrons pas à des investissements productifs. Nous la consacrons à toujours plus de dépenses de fonctionnement de l'État français. Et c'est le fameux diabète ou les caries dont je vous parlais tout à l'heure.
D'accord. Mais quand on entend François Fillon et Alexandre Devecchio dire « ça ne peut pas durer, je suis à la tête d'un État en faillite, on n'a pas voté un budget à l'équilibre », mais c'était en 2007, on est en 2024, c'est de pire en pire.
Bah, ça a duré, et moi je rejoins assez Jean-Sébastien Pfaffergeau, je ne suis pas un obsédé de la dette. Il y a un moment donné, il y avait une certaine droite comptable qui était obsédée de la dette et qui, pour résorber la dette, ce qui n'a pas du tout marché d'ailleurs, a taillé dans les lits à l'hôpital, a taillé un peu partout dans la justice, dans l'armée, dans la police. Je ne suis pas sûr que c'ait été une très grande réussite, surtout que ça nous a coûté très cher pendant le Covid, par exemple, de ne pas avoir un hôpital super performant. Donc ça, ce n'était pas la bonne méthode. Maintenant, oui, je suis persuadé qu'on dépense, qu'il y a un problème de justice justement, que certains ont l'impression de travailler énormément, notamment pour les services publics, puisque moi je suis plutôt pour qu'on ait un État fort, et on voit que les services publics se dégradent de plus en plus. Donc la question, comme le disait avec leur bon sens les Gilets jaunes, c'est où va l'argent ?
Où va l'argent et à quoi est-il utilisé ?
On va juste
écouter Gabriel Attal alors là, sur la fraude, parce qu'il dit voilà, on n'a jamais autant traqué la fraude, le Premier ministre.
Ces résultats sont historiques. En matière de fraude fiscale, d'abord, nous n'avons jamais autant traqué la fraude. Nous avons mis en recouvrement 15,2 milliards d'euros de fraude fiscale. C'est plus que jamais dans notre histoire. Je m'étais engagé à augmenter de 25% le nombre de contrôles d'ici 2027, notamment sur les plus gros patrimoines, en assumant de cibler ces contrôles et cette augmentation de contrôles sur les plus gros patrimoines. Cet engagement est non seulement tenu, mais il est même dépassé puisque nous l'avons atteint dès cette année. En d'autres termes, l'année dernière, nous avons augmenté de 25% les contrôles fiscaux et le nombre de perquisitions fiscales a augmenté de 30%.
Ça, pour prélever l'impôt, et encore une fois, on est les champions, quand même. Et pour traquer les fraudes, on est les champions.
Ça, c'est certain, on est les champions. Et c'est vrai que la fraude fiscale, d'après certaines études, elle est évaluée entre 80 et 100 milliards d'euros. Bon, là, moi, de mon point de vue, c'est aussi un exercice de communication. Il nous explique effectivement qu'il va traquer la fraude fiscale, sous-entendu l'argent des plus riches qui tentent
d'optimiser
voilà. ou de faire de l'évasion. Frauder. Mais de l'autre côté, il rogne quand même sur des acquis sociaux essentiels. Au quotidien et qui sont le fruit aussi
sociale,
exactement des acquis sociaux dont peuvent bénéficier les personnes les plus vulnérables. La réalité, et je crois qu'il a été pointé le sujet par Jean-Sébastien, c'est la dépense publique. Où va l'argent perçu par l'État ? C'est le vrai et l'unique sujet.
Parce que se demandent nos auditeurs et nos téléspectateurs.
Mais tout le monde se le demande.
On voit l'hôpital, on voit l'éducation.
Et Laurence, nous sommes le pays le plus taxé au monde. Et de l'autre côté, on a des services publics qui se délitent d'année en année. Et il n'y en a aucun de services publics qui se porte bien. Nous étions fiers il y a quelques décennies de l'hôpital public, de l'école républicaine. On avait des forces de l'ordre, une justice qui, bon à mal en, tenait le coup. Là, c'est quatre services publics. Je dirais qu'ils structurent la République, ils sont au bord du gouffre. Je veux dire, ils sont au bord du gouffre. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, quand on fait des aides dans le cadre de l'économie réelle, notamment pour les entreprises, la réalité, c'est que peut-être que les entreprises ne veulent pas d'aide, mais veulent être moins chargées et moins taxées. Je veux dire, parce que si on taxe, comme on le fait avec un assommoir, nos petites et moyennes entreprises, et que de l'autre côté, on prétend leur redonner un argent, mais je veux dire, quelque part, on est schizophrène. Plutôt que de leur redonner de l'argent, donnons-leur de l'oxygène d'emblée. Donc baissons certaines charges pour les petites et moyennes entreprises. Donc on n'est pas logique. Et puis enfin, il y a une dette qui, de mon point de vue, n'est pas négative à partir du moment où on représente un investissement pour l'avenir. Donc, et ce n'est pas toujours à ça et pour ça qu'on utilise effectivement l'argent public.
Tatiana, vous voulez dire un petit mot ?
Oui, deux choses. C'est la perception des Français. Pour eux, ce n'est pas du tout prioritaire. Pour eux, c'est le pouvoir d'achat et la protection sociale qui est prioritaire. Et ils considèrent que ce sont les choix des gouvernants, justement, qui ont creusé la dette. Cela dit, ce qui est inquiétant, c'est qu'on entend Bruno Le Maire aujourd'hui qui nous explique que l'État ne peut pas être une pompe à fric, qu'il dit cette phrase, il faut arrêter le mirage de la gratuité universelle. Alors certes, c'est vrai que c'est douloureux d'arrêter le quoi qu'il en coûte, mais il va falloir quand même expliquer aux Français pourquoi, d'abord, quand on propose 10 milliards de coupes, puis 20 milliards pour 2025, pourquoi est-ce qu'on va couper dans les investissements d'avenir? Vous parliez de l'école, en effet, de la sécurité, etc. Ça, c'est quand même des choses qui posent question. Les Français ne comprennent pas. Et puis, deuxième chose, on nous dit, en fait, le transport médical, c'est 5 milliards. Les services publics, c'est aussi beaucoup d'argent. Il y a aussi les conditions d'assurance chômage. Il va falloir réduire, encore une fois, pas l'indemnisation, mais la durée de l'assurance chômage. Bon. C'est vrai qu'au bout d'un moment, les Français ne comprennent pas, en fait, pourquoi un jour on leur dit que quoi qu'il en coûte, et donc ça peut être la gabegie, et puis l'autre jour, en fait, il va falloir couper partout et pour tout.
Les temps changent.
Et en fait, quand vous interrogez en off, en coulisses, les membres de la Macronie, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, ce discours est insupportable parce qu'il est inentendable par les Français. Et certains sont d'ailleurs très énervés contre Bruno Le Maire. Ils disent, en fait, à l'approche des européennes, c'était pas du tout le bon discours à avoir, parce que si on veut encore plus décourager les gens d'aller voter.
C'est le discours de la rigueur.
C'est le discours qu'il faut avoir. Et donc certains s'agacent.
Moi, je croyais que c'était l'économie russe qui devait être à genoux. Et que nous, nous allions très bien.
Vincent Hervouet, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de dette, de fraude, de taxes on marche sur la tête là aussi ou pas?
Quel ennui.
Vous voulez parler que de la Russie.
Comme si l'histoire, c'était effectivement d'avoir réussi à choper 25. Non, vous demandez où passe l'argent, mais tout le monde le sait où il passe l'argent. Il passe dans le service de la dette, il passe dans les pensions de retraite, d'abord. Ah, tiens, il y a peut-être une idée là. Et puis, il passe aussi dans les.
Je croyais qu'on avait fait la réforme des retraites qui allait
donc,
tout.
On a fait le tour. Le problème, c'est pas que les Français s'habituent à être endettés. Le problème, c'est le jour où nos partenaires ne s'habitueront plus à ce qu'on le soit autant. C'est le jour où, effectivement, on nous présentera à l'addition et on serrera le licou, le collier.
Ce qui est un risque en l'état limité, parce que c'est tout le drame, le drame européen. Comme je vous le disais tout à l'heure, les gens qui ont de l'argent, qui ont des liquidités, il y en a beaucoup, parce que les banques centrales en ont créé, ils préfèrent encore acheter de la dette, qui est un produit financier. Ils vont pas acheter de la dette russe, ils vont pas acheter de la dette chinoise ou saoudienne ou brésilienne, parce que le risque juridique ou le risque toujours est trop élevé. Donc si vous avez 500 millions, vous préférez encore prendre le risque que les Français et la France ne vous remboursent que 490, plutôt que de mettre 500 millions dans une usine, parce qu'à la fin, si ça se trouve, vous aurez zéro. Et en plus, vous serez payé tous les services de l'État que vous en emmerdez jusqu'à plus soif pour faire respecter telle ou telle réglementation.
Et
c'est le drame, Laurence, c'est le drame. Pourquoi est-ce que nous pouvons autant nous endetter? Nous pouvons nous endetter parce que les gens n'ont pas confiance dans l'économie réelle. Nous sommes dans un destin à la japonaise, nous sommes dans de facto une logique déflationniste et c'est ça la catastrophe. Quant à la lutte sur la fraude, c'est pas les vrais fraudeurs chez qui on est allé chercher l'argent, parce que quand vous regardez, il se trouve que, pour être entrepreneur moi-même et parler avec beaucoup d'entreprises, on est allé chercher bien souvent chez des gens honnêtes en leur mettant sous le nez des points de pur formalisme parce que vous n'êtes pas exactement comme ci ou comme ça sur les dossiers et c'est là que l'État est en train de récupérer l'argent. Ça n'est pas sur la vraie fraude parce que c'est là que les efforts ont été faits, même s'ils ont aussi fait des choses. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des trous dans la raquette de la législation sur le e-commerce et qu'ils ont récupéré de la TVA qui auparavant, il y a eu des efforts de fait. Mais malheureusement, pas sur le cœur de la vraie fraude. Les gens qui louaient les sociétés de location de voitures, vous savez, comme celles qu'avait le jeune Naël, ceux-là, ils ne sont pas contrôlés.
Allez, petite pause, on se retrouve dans un instant. On va parler de sécurité, on va repartir à Marseille au lendemain de l'opération PlaceNet XXL. On écoutera le préfet de police tout de suite.
Sans qui.
18h-19h sur CNews et Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari. Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1.
18h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. L'équipe de Punchline est survoltée. On va évoquer les suites de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille avec ses opérations PlaceNet XXL qui se multiplient et qui se poursuivent d'ailleurs dans la cité phocéenne. Le préfet de police de Marseille était sur place aujourd'hui, Pierre-Édouard Colliex. Écoutez ce qu'il a dit, nous ne lâcherons rien.
Nous ne lâcherons rien là-dessus. Nous ne lâcherons pas, nous ne laisserons pas les dealers revenir sur des points de deal à la Castellane et nous continuerons nos opérations partout dans le département et partout à Marseille. Donc voilà, il y a des choses qui sont dites, certains ont vu des individus revenir, ont pu penser que des dealers revenaient. Nous sommes là, les policiers CRS, les policiers de la sécurité publique sont là en présence en permanence. C'est pas Narcoville, c'est la ville des Jeux Olympiques, ça va être la ville olympique. Donc notre défi et notre devoir, c'est vraiment de mobiliser l'ensemble des effectifs pour que tout ça se passe bien.
Voilà pour le préfet de police de Marseille. Je vous sens sceptique, Vincent Hervouet, pourquoi?
Ah non,
les grands discours, ça vous plaît
je
pas?
Je trouve que ce préfet de police a une longue carrière devant lui parce que avec sa barbe de trois jours, il parlait exactement comme le président. Il a repris dès le début, nous ne lâcherons rien, nous ne céderons rien, qui est vraiment une des phrases clés qui suffit évidemment à intimider l'ennemi, que ce soit le dealer à Marseille ou que ce soit le tankiste en Ukraine. Écoutez, franchement, c'est la 13e fois que le président vient sur place.
17, 17 même.
17e oui, fois.
On a fait le point.
Ah, j'ai arrêté le compteur quelque part, excusez-moi. Ouais. Il avait l'air très satisfait de son séjour. quand on regarde le cours des stupéfiants, qui est vraiment... Pour l'instant, ça coûte vraiment très... C'est vraiment le moment, si vous avez envie de vous adonner à une addiction quelconque, c'est vraiment le moment parce que c'est très très bon marché, puisque vous aimez les histoires d'argent. La cocaïne n'a jamais été aussi plus chère. L'héroïne, c'est 9 euros le gramme. C'est donné, hein, vraiment. C'est le paradis pour un très bon marché. Le crack, le nombre de consommateurs a triplé en 10 ans. Vraiment, tous les chiffres vont dans le même sens. C'est-à-dire que le marché est inondé de produits de plus en plus purs et de moins en moins cher, ce qui montre l'échec absolument éclatant de toutes ces grandes mobilisations. Là, ils ont récupéré aujourd'hui, donc avec 750 policiers, ils ont récupéré moins d'un kilo de cocaïne et 8 kilos de cannabis.
C'est maigre, effectivement. Mais ça va se poursuivre
sur
plusieurs semaines. Karim, vous avez des propositions à faire ?
Non, mais moi, franchement, quand on voit cette opération de communication qui est très sectorisée, le quartier de la Castellane, avec quelques camions de CRS, et une opération qui place simplement le dispositif PlaceNet comme arme, j'ai envie de dire, pour lutter contre ça, on se dit c'est pas sérieux. Moi, je vais vous dire, il y a trois propositions concrètes et sérieuses qu'il faut faire. D'abord, il faut rétablir la frontière entre l'Espagne et la France. 80% du cannabis passe par là, avec les GoFast. Donc, je ne comprends pas pourquoi H24... on n'a pas un contrôle drastique de tout ce qui rentre en provenance de l'Espagne. Et on aurait des tonnages donc à récupérer. Le deuxième, c'est pour moi la police de proximité. Il faut la remettre. Ça coûte, mais derrière...
Mais la mairie veut pas quand même.
Non, mais c'est pas la mairie, c'est l'État. L'État oui, qui après, doit imposer. L'État qui doit remettre en place une police qui n'est pas l'îlotage de papa, mais qui est des équipes armées, structurées, formées pour aller à la reconquête de ces quartiers, mais durablement. Toute l'année, pas trois jours lors d'une opération du président de la République à Marseille. Et puis, dernier point, prendre en compte les propositions de ces quatre magistrats avec des juridictions spécialisées, des infrastructures pénitentiaires, donc avec des quartiers de sécurité pour ces trafiquants qui ne puissent plus communiquer avec l'extérieur, qui ne puissent plus aller faire le recrutement aussi en prison, avec d'autres détenus qui ont fait d'autres larcins. Donc, il faut qu'on se donne les moyens de lutter contre la drogue. Là, c'est de l'agit-prop, c'est de la communication et c'est décevant parce que quelque part, il va y avoir un effet boomerang, plus personne ne croira en la politique.
C'est pas faux. Alors, Jean-Sébastien Ferjou, Tatiana, ensuite.
Non, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, à la fois sur le fait que la politique est très peu efficace, on le voit dans les prix du marché. Effectivement, il y a des propositions comme des prisons à haute sécurité, mais il y a aussi énormément d'hypocrisie de la part de l'État parce que mine de rien, la question qu'on s'est posée il y a 4 ans au moment du confinement, vous savez que le gouvernement s'est posé la question, ah mais tiens, comment vont vivre un certain nombre de quartiers maintenant que justement il n'y a plus les revenus des trafics de drogue. Donc si on se la pose à ce moment-là, on doit pouvoir se la poser quand il n'y a pas de confinement, parce que c'est aussi cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a ce vertige, et on a d'ailleurs eu l'hypocrisie ou la lucidité, chacun choisira, d'intégrer le chiffre d'affaires des trafics de drogue au produit intérieur brut, au PIB français. Non mais parce que c'est pas négligeable, mine de rien, on peut être dans une logique qui soit purement sécuritaire, ça ne marchera pas, parce que déjà c'est l'ordre qu'il faut rétablir sur le territoire, c'est aussi une question de santé publique et c'est aussi une question économique parce que ça n'empêche pas que ces revenus-là, ils font vivre des quartiers entiers. Qu'est-ce qu'on a à proposer en alternative?
Des familles entières, pas des quartiers entiers.
Des enjeux financiers colossaux, en effet, si je suis un peu vulgaire, un pognon de dingue, c'est ce que vous dit tout le monde sur le terrain. Donc du coup, comment contre ça? Deuxième chose, vous avez raison Karim, je suis d'accord, une police de proximité, non seulement pour avoir du renseignement, pour mailler le territoire, mais aussi, on a déjà une police municipale, donner les moyens qu'il faut. Aux polices municipales, beaucoup de maires s'en plaignent en disant en fait, nous on a des moyens, on n'a pas le droit, on n'a pas la loi avec nous, on n'a pas le droit de faire de fouiller les véhicules, on n'a pas le droit de faire de contrôle d'identité. Bref, donner les moyens pour combattre cela et des moyens pérennes, parce qu'on a vu la CRS-8, elle vient, elle reste quelques jours, elle repart, le deal recommence. Et puis dernière chose, les consommateurs, vous en parlez je crois avec Alain Bauer tout à l'heure, les consommateurs, des délinquants, non. Avant tout, des malades, une addiction. Non. La problématique, non, mais aussi une addiction, des délinquants, mais aussi un problème. Non, oui, mais du coup, un travail à faire aussi en matière d'addiction, donc une politique de réduction des risques à mener, une politique de prévention, et donc pas les traiter que comme des délinquants, mais aussi des malades. Alors, et ça, du coup, bah, évidemment, ça change les perspectives.
Discours de santé et de prévention publique. Vous l'entendez pas, Vincent Hervouet?
C'est une question qui est très compliquée. C'est vraiment des questions qui sont très compliquées. Sortir de la drogue est un véritable enfer. C'est pas une petite cure, ça suffit pas. Il y a un peu de volonté.
Il y a des malades aussi.
C'est un truc très compliqué. Mais d'un mot quand même, les salles de shoot du côté de la gare de l'Est à Paris, ça a fait gonfler la consommation de crack comme jamais. Toute la compassion avec laquelle on traite les petits consommateurs est absolument, à mes yeux, en tout cas je me trompe peut-être, hein, c'est jamais mon avis, mais je la trouve criminelle. Je pense qu'au contraire, il faudra des amendes totalement dissuasives à quiconque on trouve avec une barrette de shit.
Ça ne changera rien.
Et le jour où les gens paieront 1000, 2000, 3000 euros à chaque fois qu'ils seront gaulés avec un peu de cannabis, ça changera complètement la relation avec la drogue
peut-être
festive, récréative, etc.
Alors, quelqu'un qui a un tout petit
mot. Sur le fond, beaucoup de choses ont été dites, donc peut-être sur la forme, faisons un peu de politique en cette période d'élection européenne. Vincent Hervouet, qui aime bien la géopolitique, justement, aurait pu vous dire que Emmanuel Macron avait abandonné le front russe pour le front marseillais. Donc, de ce point de vue, il comprend que peut-être que la menace existentielle est peut-être en France, je dirais, et pas en Russie. De ce point de vue-là, on peut s'en réjouir. Le problème, c'est qu'effectivement, ça fait 17 fois qu'il nous fait le coup et que les résultats sont pas là. Donc, plus qu'une opération place nette, ça ressemble quand même à une opération de communication.
On va se déplacer sur le front russe parce qu'il existe toujours néanmoins et je ne pense pas qu'Emmanuel Macron l'ait lâché. Le ton continue de monter, Vincent, avec Moscou. Alors là, à propos des Jeux Olympiques, parce que le CIO, le Comité International Olympique, a annoncé hier que les athlètes russes et biélorusses ne participeraient que sous bannière neutre et sans hymne national si jamais ils remportaient des médailles. Et ça provoque la fureur des Russes. Explication d'Audrey Berthaud, je vous passe la parole ensuite.
Pas de parade sur la scène pour les sportifs russes et biélorusses. Après plus de 2 ans de rebondissements liés à la guerre en Ukraine, le Comité International Olympique a tranché.
Les cérémonies de Paris ont fait l'objet de discussions au sein du CIO et les principes suivants ont été établis. Les athlètes individuels neutres ne participeront pas au défilé des équipes des délégations lors de la cérémonie d'ouverture, puisqu'il s'agit d'athlètes individuels, mais ils auront l'occasion de vivre l'événement.
Le Kremlin n'a pas tardé à réagir. Pour la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, c'est l'indignation totale. Les décisions du CIO sont illégitimes, injustes et inacceptables. Nous sommes indignés par les conditions discriminatoires sans précédent imposées par le Comité international olympique aux athlètes russes. Je veux en dire plus, le CIO est devenu un lieu où fleurissent le néonazisme et le racisme. C'est la seule façon de le qualifier.
Les sportifs des deux pays devraient être peu nombreux. Seuls 12 Russes et 7 Biélorusses se sont pour leur qualifiés. Une décision concernant la cérémonie de clôture sera prise ultérieurement.
Vincent Hervouet, ça, Poutine n'aime pas du tout qu'on s'en prenne à ses athlètes. Et ça provoque la fureur.
On peut trouver ça dérisoire que de priver comme ça les athlètes de défiler, de les mettre au coin. Bon, c'est pas nouveau. Mm-hmm. C'est les Américains qui les premiers avaient imaginé ça. Pour une question d'alternative, une sorte de méthode douce, de méthode de boycott light. Et moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que vous avez le CIO d'un côté, qui est donc pris entre des forces opposées, et qui essaie de trouver un chemin. Et puis vous avez des côtés russes, eh bien, la volonté de faire des contre-jeux. Alors, on a eu en février des sortes de faux jeux qui étaient les jeux du futur. Vous allez avoir
les jeux de l'amitié, non, c'est ça, ils veulent l'organiser.
Voilà, en juillet, vous allez avoir les jeux de l'organisation de coopération de Shanghai. Ça ce sera en septembre. Attendez, parce qu'à chaque fois ça va réunir un tiers, un quart, la moitié de l'humanité. Et donc vous allez avoir en face des Jeux olympiques, s'ils vont jusqu'au bout de leur projet. Vous allez avoir une sorte, donc, on va voir le pop-off avec le couteau entre les dents qui sera de retour sur la scène face à l'Occident décadent, toujours montré du doigt avec ses doubles mesures.
Et c'est l'escalade qui se poursuit, Vincent, à travers les Jeux Olympiques, on est d'accord?
Oui, c'est tout le système international qui est en train de se déglinguer sous nos yeux, et il n'y a pas de quoi applaudir ou de s'en réjouir, hein, franchement, parce que c'est peut-être un système qui est très défaillant, qui a plein de limites, qui a plein de défauts, mais il a le mérite d'exister. c'est mieux que rien, c'est mieux que le chaos et plus aucune enceinte où les nations rivalisent, coopèrent, dialoguent un minimum.
Sur le front militaire, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a eu de nouvelles déclarations? Emmanuel Macron n'a pas redit qu'on enverrait...
Non, il n'a pas déclaré la guerre aujourd'hui.
...de troupes. Non, mais voilà, les choses vont vite en même temps. Hein.
Non, voilà.
C'est au dealer marseillais.
Non, le champ de, le dernier petit duel, c'est sur les fonds... les poursuites sur les avoirs russes qui ont été, vous savez, gelées. Depuis 2 ans. Et il y a l'idée qui va être demain à l'ordre du jour du Conseil européen. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut les utiliser pour financer l'achat d'armement à l'extérieur de l'Union pour les Ukrainiens? Et là, les Russes disent, dans une défense vertueuse du capitalisme, dans ses lois les plus anciennes et les plus fondamentales, dit pas question, pas touche, si vous faites ça, ce seront des recours en justice pendant sur des décennies, on vous jure qu'on le fera. Et c'est vrai que là encore, c'est la transgression d'une règle qui paraît incroyable, quoi. Vous pouvez difficilement aller saisir les avoirs de tous les Russes qui circulaient en Europe et les avoir, les fonds souverains, pour les utiliser à acheter de l'armement. De la même manière, vous pouvez difficilement demander à des athlètes russes une déclaration contre la guerre en Ukraine, une déclaration pacifiste qui les aurait stigmatisés en rentrant chez eux.
Voire envoyés en prison, hein, on est bien d'accord. Qui est-ce qui est contre le fait que les athlètes russes défilent sans bannière et sans hymne?
Moi, je ne suis pas spécialement pour. Je pense que la défense des Russes traitant le CIO de néonazisme est ridicule, outrancière, grotesque, et qu'ils se défendent vraiment pas bien. Mais pour le coup, je ne vois pas ce que ça va apporter. C'est effectivement un peu dérisoire. On est en guerre contre Vladimir Poutine, mais pas envers la Russie. Il faudra se réconcilier avec la Russie. Il faut continuer à parler à l'opinion russe. Et je pense que punir comme ça les athlètes, c'est finalement faire le jeu d'une certaine manière de Vladimir Poutine.
Et on peut les laisser arborer le drapeau russe.
Et pourquoi les Russes? Pourquoi les Russes? Parce que, non, mais pardon, il y a d'autres pays, les Saoudiens, il va y avoir les Chinois, qui ne sont pas forcément des pays alliés non plus. Donc je trouve que voilà, c'est une punition un peu dérisoire. Il y a un deux poids deux mesures. Je pense pas que c'est comme ça qu'on peut régler les problèmes.
Allez-y, Tatiana. Je pense qu'au regard du contexte actuel, ça me semble légitime, et je pense que ça peut être un outil de propagande justement problématique, parce qu'on connaît la puissance des éléments de langage justement du Kremlin.
Absolument, Karim.
Moi, je trouve qu'on est à géométrie variable. On dirait qu'il n'y a qu'un conflit dans le monde. Alors faisons-le pour tous les terrains de conflit. Il me semble que pour ce qui se passe en Palestine, il y a des cessez-le-feu qui sont demandés dans le monde entier. Il y a la Cour internationale de justice qui s'est prononcée. Et donc, alors Poutine, il n'a pas de drapeau. Israël va avoir un drapeau.
Mais Karim, pardon,
l'agression n'est pas le même.
Rien à voir. Pardon, là, il y a eu un agresseur, il y a quand même les attaques du Sénat.
Excusez-moi, il y a un génocide qui est en cours.
Non, il n'y a pas de
génocide.
C'est la Cour internationale de justice.
Non, justement, elle n'a pas dit ça, la Cour
internationale de justice.
Elle a dit l'inverse.
Toutes les conditions du génocide sont réunies. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour internationale. La CIG, quand même.
Les mots, justement, ont un sens, et les actes aussi ont un sens, Karim.
Justement, les actes, là, il y en a pas.
C'est l'important, ce que vous dites. Cela dit, vous ne pouvez absolument pas mettre sur le même plan. Les Ukrainiens n'ont rien demandé aux Russes. Les Russes sont venus annexer, ont commencé par annexer la Crimée, le Donbass, et s'en prennent à un peuple.
Mais les Palestiniens, ils n'ont rien demandé non plus.
Et démocratique. Là, on parle des attaques du 7 octobre.
Non, on ne parle pas de ça, on parle de la riposte.
Qui est venu massacrer.
Vous la laissez parler, Karim.
Oui, mais d'accord.
Non, mais merci, laissez-la parler.
Je n'ai pas dit. On parle de la riposte.
Non, mais laissez-la parler. Ce que sous-entend vos discours, c'est de dire qu'en fait, il faudra interdire aussi les sportifs israéliens. C'est ce que vous dites.
Pourquoi? Je dis simplement qu'on a un gouvernement d'extrême droite qui est en train d'éradiquer un peuple.
Donc,
je suis désolé de vous le dire,
on a une différence plus totale sur ce plateau.
Non, mais il n'est pas en train d'éradiquer un peuple. Ridicule. Il y a une tragédie, personne n'en doute, vécue par les civils palestiniens. Je m'étonne d'ailleurs que vous ne voyez que le gouvernement d'extrême droite israélien, c'est une coalition, et vous pourriez exiger du Hamas qu'il dépose les armes.
Mais
parce que peut-être que le Hamas est au moins autant responsable.
Il n'y a pas d'État palestinien. Moi, j'ai condamné l'attaque du 7 octobre, donc j'ai dit que ce n'était pas un interlocuteur pour la paix. Qu'est-ce qu'il vous faut? Mais là, on a un État en face qui a une armée. Et qui est en train de tuer des milliers de femmes et d'enfants.
C'est
le Pentagone qui le dit.
Dans une guerre, ce n'est pas un génocide pour autant. Les mots ont une importance. C'est la Cour internationale de justice, précisément à l'inverse de ce que
s'il vous plaît, votre avis.
Écoutez, moi, je ne suis pas dans un concours d'élégance morale. Moi, j'essaie d'observer les rapports de force. Ce qui m'intéresse ces jours-ci, c'est la visite de M. Blinken au Moyen-Orient, c'est le dialogue, d'essayer de savoir qu'est-ce qui se dit réellement dans le dialogue entre Israéliens et Palestiniens pour essayer de trouver les voies d'un cessez-le-feu, en tout cas d'une trêve. Quant à la comptabilité macabre des dégâts et des décombres à Gaza, il faut commencer par dire qu'il y a toujours 130 otages enterrés vivants et que les dizaines de milliers de morts probables. Les 30 000 morts, c'est la comptabilité que fait le ministère de la Santé d'un régime
Le Pentagone.
Oui, mais personne n'est allé l'écouter. Mais le Pentagone, c'est qui le Pentagone? Moi, je n'ai pas vu de déclaration officielle des américaines. Non, mais il n'y a pas de comptabilité comme ça.
C'est des milliers de bombes, ça tue personne.
Mais de toute façon, c'est pas le plus important. La souffrance, le chaos qui règne aujourd'hui dans ce coin du Moyen-Orient, de ce Proche-Orient, va impacter les relations internationales pendant des décennies. Ce qui s'est passé le 7 octobre nous a tous plongés, et surtout la région évidemment, dans une sorte d'abîme dont personne ne sait comment on va sortir. 15
ans qu'il y a un conflit.
On est tous dans les tunnels.
Allez, 18h33, l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Mickaël Dos Santos sur CNews et sur Europe 1.
Française la semaine dernière, plus de 10 tonnes et demie de cocaïne ont été interceptées sur un bateau de pêche brésilien dans le golfe de Guinée, à l'ouest de l'Afrique. La valeur de la marchandise est estimée à près de 695 millions d'euros. Un nouveau coup dur pour le prêt-à-porter français. La maison mère des marques pour enfants du pareil au même, sergent-major et Nathalie, a été placée en redressement judiciaire. La Société Générale pour l'Enfant, qui emploie 2500 personnes, s'est déclarée en cessation de paiement et bénéficie désormais d'une période d'observation de 6 mois. Enfin, le gouvernement désamorce la bombe sociale des zones à faible émission. À partir du 1er janvier 2025, 41 métropoles pourront choisir quels véhicules pourront circuler. Un bonus pour les véhicules critère 3 qui devaient être bannis. Les restrictions anti-pollution sont néanmoins maintenues dans des villes comme Paris ou encore Lyon.
Merci Mickaël Dos Santos. Petite pause, on se retrouve dans un instant avec Alain Bauer qui sera notre invité, professeur de criminologie. On va parler avec lui de sécurité et des grandes affaires criminelles. A tout de suite.
18h-19h sur CNews et Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari.
Punchline, 18h-19h.
Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1.
18h39, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Alain Bauer. Bonsoir Alain Bauer.
Bonsoir.
Bienvenue, très bien dans Punchline. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas venu.
Ben, j'étais beaucoup absent.
Bon, en tout cas, vous avez un nouveau livre et on est très contents. Au bout de l'enquête, saison 2, les plus grandes affaires criminelles passées au crime avec Marie Drucker, aux éditions First. On va en parler, mais d'abord, l'actualité, évidemment, c'est le trafic de drogue, le narcotrafic. Vous connaissez bien, vous avez été auditionné le 29 janvier, avant les magistrats marseillais au Sénat. On va revoir ce que vous en pensez, mais j'aimerais qu'on écoute juste le président Macron. Il était hier sur place pendant plus de 3 heures. Il a tenu un discours très volontaire avant une déambulation de 3 heures. Écoutez-le.
Nous sommes à la bataille. Et on n'a pas attendu d'ailleurs ces derniers mois. Et c'est pour ça que moi, je ne saurais, pour ma part, céder à aucun discours de défaite. La situation, elle est très difficile. Elle est très difficile à Marseille, comme dans beaucoup de villes. Malheureusement, de plus en plus de villes, y compris de villes moyennes, comme elle est d'ailleurs difficile dans beaucoup de villes d'Europe et du monde. La drogue est un fléau mondial, le narcotrafic est un fléau qui est croissant. Oui, la drogue est notre ennemi, nous l'avons dit dès le début avec beaucoup de fermeté, et nous ferons tout pour lutter contre avec efficacité.
Alors, est-ce qu'il y a là la volonté politique que vous réclamiez fin janvier devant les sénateurs, Alain Bauer?
Alors, comme toujours, la police, c'est deux sujets, l'opérationnel et la communication. Côté communication, tout va bien, la vie est belle et on est passé à un autre niveau de communication. Du point de vue opérationnel, il y a toujours un sujet qui est très français entre l'opération coup de poing, qu'on appelait dans le temps, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, XXL désormais.
Place Nette XXL.
Voilà, Place Nette, qui est à peu près la même chose. Alors, l'opération coup de poing, ça date de la fin des années 70. L'opération Place Nette date de début des années 2020, ou milieu des années 2020, mais en fait, c'est toujours la même chose. La question de ces opérations, c'est qu'elles ont une durée limitée, dans un espace limité, et que tant qu'il n'y a pas de saturation du terrain, c'est-à-dire une occupation longue, lente et minutieuse de reconquête territoriale, quelques heures, quelques minutes après le départ des forces largement engagées dans ces opérations, qui ont une efficacité relative de saisie, de perquisition, de disruption, tout recommence comme avant. Et si vous envoyez, je pense, des reporters sur place, ou si vous regardez ce que les habitants filment eux-mêmes depuis hier soir, on se rend compte que dans la quasi-totalité des espaces, entre guillemets, libérés, ben, ils ont été reconquis ou réoccupés. Et c'est le problème qui est la durée, la durabilité de ce type d'opération qui n'est pas aujourd'hui pensée comme autre chose qu'un coup de poing ou une opération limitée dans le temps. Il faut passer de ce point de vue-là du CDD au CDI, c'est-à-dire une saturation longue du terrain. Il faut entre 3 semaines et 1 mois pour reconquérir un territoire gangréné par la drogue, c'est-à-dire entre 3 semaines et 1 mois pour assécher le trafic, les moyens du trafic et détourner le consommateur. Aujourd'hui, on fait une erreur parce qu'on pense producteur, on pense distributeur et peu consommateur. C'est un sujet pourtant essentiel. S'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de distribution.
Alors justement, on a entendu Éric Dupond-Moretti dire qu'il fallait absolument taper sur les consommateurs, que fumer un joint, c'est ces mots, hein, le samedi soir, c'est oublier que c'est une trace de sang sur le trottoir. Est-ce que c'est avec des clichés comme ça qu'on va faire reculer la consommation de drogue dans notre pays?
Il vaut mieux qu'il dise ça que l'inverse. Donc c'est déjà, de ce point de vue-là, un progrès philosophico-conceptuel. C'est plutôt une bonne idée. La question, c'est comment le traiter. Alors moi, pas plus que je pense qu'il ne faut punir les parents qui sont plus souvent licenciés que démissionnaires. Je ne pense qu'il ne faut punir les consommateurs qui sont d'abord des malades. Il y a une vraie difficulté depuis la loi de 70 en France, qui est un texte qui nous a été imposé par le président Nixon parce que la France exportait massivement ses produits stupéfiants aux États-Unis et que ça les rendait, à juste titre, extrêmement agacés. La loi de 70, elle ne fait pas et elle ne sait pas faire la différence entre la lutte contre le deal et la lutte contre la consommation. Elle n'arrive pas à traiter de la partie socio-médicale qui nécessite de réduire la consommation et le deal. Autant on arrive à le faire plus ou moins en matière d'alcool et de tabac, même s'il y a des dérivatifs, même s'il y a de la fraude et de la contrefaçon, et Marseille, malheureusement, est loin d'être isolé comme un havre de paix sur ce secteur-là. Tout à Marseille est un problème du point de vue du deal, de la contrefaçon, de l'occupation illicite, du squat, de l'organisation criminelle. Depuis 100 ans, c'est quand même le seul espace où un kyste criminel s'est enraciné et a pris en otage les habitants d'une ville entière depuis Carbone et Spirito. Ça n'est pas une nouveauté qu'on ne découvre pas cette semaine, cette année, et pas particulièrement de la faute de ce gouvernement. Mais la réponse réelle à la problématique du deal à Marseille, c'est d'intégrer la dimension où il faut taper en même temps et au niveau socio-médical par l'injonction sanitaire qui existe dans le code de la santé publique et par les opérations pénales. Et en fait, on ne tape que d'un seul côté, on ne marche que sur une jambe et mécaniquement, ça pose un problème parce que ça ne résout rien sur le long terme.
Très bien. J'aimerais qu'on écoute maintenant le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, sur un autre sujet. Le commissariat de la Courneuve qui a été attaqué ce week-end à coups de cocktail Molotov et de tirs de mortier après la mort d'un jeune à Aubervilliers, une cité connexe, lors d'un refus d'obtempérer. Écoutez les mots du préfet de police de Paris, Laurent Nunez.
J'ai entendu ici ou là des réactions et des commentaires qui m'ont un peu indigné. Pour certains, qui consistaient à saluer l'action qui avait été menée par les émeutiers, je trouve ça tout à fait intolérable et surtout qu'il ait fait le lien avec le décès d'un jeune homme mercredi soir sur la commune d'Aubervilliers, qui était un jeune de la Courneuve, dans le cadre d'une opération de police. Donc ces réactions qui soutenaient les émeutiers d'hier soir et qui proviennent évidemment de l'extrême gauche sont des réactions qui visent donc finalement à les encourager, à les inciter à l'émeute en partant du principe que ce qui a eu lieu à Aubervilliers c'est un acte de police volontaire.
Alors Alain Bauer, là on voit bien comment le préfet de police dénonce la France Insoumise en l'occurrence.
Et, je crois que c'est Monsieur Poutou plutôt.
Monsieur Poutou aussi, mais ouais. Il y a eu un certain
d'accord.
Nombre
enfin,
de
celui qui a
de la France Insoumise qui ont embrayé. Oui, absolument.
Le député.
Là on est face à un recul de l'autorité en réalité partout.
Alors il y a une problématique, c'est qu'avant les affrontements entre des policiers et des dealers, des criminels, des bandes, des groupes, etc., se faisaient en général quand la police intervenait au mauvais endroit, au mauvais moment pour perturber un processus. Et puis ça a beaucoup évolué et curieusement pas seulement contre les policiers mais aussi contre les pompiers par exemple, dans des opérations de guet-apens ou d'attaques volontaires et coordonnées avec des effectifs de plus en plus importants. Ce qui est impressionnant à la Courneuve, alors ce n'est pas le premier commissariat, il y a depuis une dizaine d'années, on doit être hors émeute généralisée au 10e commissariat attaqué à coups de mortier. C'est, voire même une prison une fois. C'est l'expansion des groupes organisés, notamment par l'usage des réseaux sociaux, qui viennent participer à l'attaque à coups de mortier, à coups de tout ce qui leur tombe sous la main d'ailleurs, en détruisant les véhicules ou en tentant de prendre d'assaut le commissariat et notamment les armements du commissariat. Et ça existe aussi au moins une fois dans une gendarmerie. Donc il y a une dégradation dans la capacité à l'affrontement parce que pour les émeutiers, la police n'est pas la police, c'est une autre bande. Il y a donc un conflit territorial entre ce qu'ils estiment être deux bandes, et c'est le quartier général de la bande adverse. Le vrai sujet, c'est l'organisation volontaire qui peut se faire nonobstant un événement tragique comme la mort d'un jeune homme et un blessé poursuivi, ou dans un refus d'obtempérer, ce qu'on avait vu à Nanterre, qui avait provoqué un cycle d'émeutes massives. Mais il y a, moins qu'un recul de l'autorité, une perte de contrôle territorial connu depuis longtemps, visible depuis longtemps, mais sous-estimé pendant très longtemps, parce que la police qui était passée d'une police d'enracinement sur le territoire à une police d'intervention pensait qu'elle pouvait toujours aller où elle voulait, quand elle voulait, et qu'il n'y aurait pas de match retour. Là, depuis une dizaine d'années, policiers et gendarmes sont en train de se rendre compte qu'il n'y a pas de lieu sanctuarisé ni d'espace sécurisé pour eux, voilà, pour leur famille, ce qui est un autre sujet, et on l'a vu dans l'affaire de Magnanville, y compris dans des opérations terroristes ciblant un père et une mère de famille sous les yeux de leur assassinés sous les yeux de leur enfant. Donc, ceci modifie considérablement la donne. Force reste à la loi n'est plus un slogan acceptable, ça n'est même plus une injonction, c'est juste un sujet de négociation.
Une question, Jean-Sébastien Ferjou.
Est-ce que, comme vous êtes criminologue, vous étudiez ce qui se fait non seulement en France mais ailleurs, est-ce qu'il y a des modèles qui ont marché? On a beaucoup parlé à une époque de la théorie de la vitre brisée. Exactement, d'ailleurs ça a un peu reculé aux États-Unis. Qu'est-ce qui marche? Est-ce qu'on a vu ailleurs des États qui, confrontés à des situations similaires, avaient réussi à reprendre la main?
Oui, vous avez d'ailleurs publié chez vous un papier de mon collègue Xavier Hofer sur la situation mise en place par le président Bukele, qui a, avec des méthodes extraordinairement brutales...
Où ça ?
Au Salvador.
Salvador réduit considérablement la criminalité en tapant sur l'opérateur le plus intéressant. Alors, en matière de drogue, c'est le consommateur. En matière criminelle, c'est le criminel lui-même. Et avec des méthodes qui ont révulsé toutes les âmes charitables qui peuvent exister, et elles n'ont pas toujours tort sur l'ampleur des effets collatéraux, a réduit considérablement la mortalité et la criminalité en ce pays sous les hurrahs de la population qui a choisi, malgré la
pression, de le réduire. Quelque chose de plus proche peut-être de ce que vit la France.
Un peu partout, non, mais vous avez un peu partout un choix qui est de considérer que le criminel a une excuse pour être criminel ou il a une responsabilité d'être criminel. C'est un choix philosophique majeur dans la production pénale. Et la production pénale en France, depuis une trentaine d'années, elle vise à alternativiser tout. C'est-à-dire à dire qu'en fait, le criminel, par essence, est d'abord une victime et accessoirement un auteur. Et ce problème-là, il a totalement modifié la manière dont nous traitons les choses. Alors pas que nous soyons laxistes, contrairement à ce que tout le monde raconte, mais nous sommes lents. C'est-à-dire qu'entre le premier acte et le moment où on va en prison, eh bien, le temps est extraordinairement long. Il n'y a pas de rapidité de la décision. Pour prendre un exemple, j'ai jamais eu autant de personnes en prison pour des peines aussi longues et des personnes aussi jeunes. Donc, les magistrats ne sont pas laxistes, mais ils attendent 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 auditions pour tout d'un coup passer à la prison ferme et l'appliquer fermement. Et c'est ça notre problème. C'est qu'entre rien et trop, nous avons un souci d'adaptation et de précision dans l'usage du dispositif. Par exemple, les courtes peines. Nos amis hollandais, Pays-Bas, ont mis en place un dispositif où on fait des courtes peines rapides pour casser le glissement vieillesse-technicité de la criminalité, c'est-à-dire le processus criminel, l'échelle de progression.
Donc on peut avoir des peines de 3-4 jours de prison.
Oui, parce qu'on casse directement le processus, on isole, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'écouteurs, il n'y a plus de génération Y, Z ou je ne sais pas quoi. Et ça a un effet extrêmement rapide sur la capacité de désintégration du processus criminel, comme si tout était autorisé, qu'il n'y avait jamais de sanctions, ou que s'il y en avait une, elle arrivait tellement tard et tellement loin que d'ailleurs on ne la comprenait pas. Voilà, donc on a des exemples, et moi je suis très favorable aux sur-mesures en matière criminelle. On l'applique sur la quotité de la peine, on devrait aussi l'appliquer sur la manière dont on accélère le processus, par l'isolement. Et c'est valable pour les injonctions sociothérapeutiques en matière de consommateurs de stupéfiants qui doivent être traités d'abord comme des malades et des addicts, mais aussi, ça peut être aussi valable pour les primo-opérateurs de la criminalité et de la délinquance, dont on pourrait casser très rapidement le rythme d'entrée dans l'espace criminel. Et vous voyez d'ailleurs assez régulièrement, pardon de le dire très vite, mais que dès qu'ils sont interpellés, notamment des aides-mafias et Yoda à Marseille, ils s'effondrent en interrogatoire, découvrant soudain ce qu'est la capacité de la police justement à démanteler des réseaux criminels quand elle s'en donne la peine. Mais elle s'en donne la peine pour des choses très importantes et très graves et en prenant beaucoup de temps d'enquête. Et elle a des difficultés à agir très vite avec notamment une cohérence avec le système judiciaire ou ce qu'on appelle la procédure pénale.
Alexandre de Vecchio.
Alors oui, une question pour revenir un peu sur ce que vous avez dit précédemment, c'est-à-dire que les opérations PlaceNet en réalité devraient durer au moins un mois, si ce n'est plus, pour reconquérir précisément les territoires perdus ou les territoires conquis. Est-ce qu'on a tout simplement les moyens matériels? Est-ce que l'État régalien aujourd'hui est assez fort pour le faire? Je ne suis pas sûr que l'armée soit la bonne solution, mais du coup certains se demandent s'il faut pas ajouter des forces militaires aux forces de police. Comment on fait concrètement pour mobiliser des forces de l'ordre un mois, voire plus, sur des parties entières de territoire?
Alors déjà, il y a un problème moral, de crise morale, sociale, de moyens, vous avez raison, d'équipement. Qui a jamais visité un commissariat, et notamment les vestiaires du commissariat, on sort en se demandant dans quel pays on est et dans quel siècle on est. Hein. Donc il y a quand même une désespérance policière qui est considérable entre les arrêts maladie, les départs à la retraite par anticipation, le désarroi des policiers, plus d'ailleurs des policiers que des gendarmes, mais c'est le système organisationnel qui veut ça. On sent bien qu'ils sont démoralisés et désespérés. Et d'ailleurs, ceux que vous invitez ici n'ont pas besoin de moi
absolument,
pour vous l'exprimer. Et c'est encore plus violemment exprimé, ouvertement exprimé, quand vous allez discuter avec des policiers directement sur le terrain, ce qui m'arrive assez régulièrement. Donc, je crois qu'il y a un vrai problème qui est celui-là. Deuxièmement, nous ne manquons pas de moyens, nous manquons d'une volonté cohérente, pénalo-policière, c'est-à-dire de l'ensemble du dispositif. Je ne dis pas chaîne pénale, c'est pas joli, mais procédure pénale, pour réaliser ce processus de saturation territoriale. Car quand vous le réalisez véritablement, certes, il y a des effets dits plumeaux, c'est-à-dire que d'autres gens vont ailleurs, et vous voyez l'exportation marseillaise vers des villes inédites, hein, Rennes, Valence, des transferts d'intervenants pour tenir les points de deal, pour éviter une trop grande connaissance des services de police. Donc on voit un mouvement de rotation très important des équipes, mais il y a aussi une difficulté qui est que les policiers, pour des raisons, les policiers et la police judiciaire décident de démanteler les réseaux, ce qui est lent, et pas d'empêcher le deal, parce que les gens sont remplacés rapidement. Mais vous saturez le terrain, vous choisissez une logique de saturation progressive du terrain, que ce soit Marseille, Valence ou ailleurs. À partir du moment où vous asséchez le processus, vous avez un problème, qui est qu'est-ce qui remplace la ressource financière qui fait vivre entre 3 et 500 000 personnes en France, qui permet de payer les loyers, qui permet de payer le permis de conduire. Quand vous voyez les procès et les petits cahiers qui sont saisis sur les fours, les points de deal, vous découvrez avec stupéfaction comment sont réinvestis les sommes. Tout ne va pas en Ferrari. Donc il y a une vraie dimension de réorganisation et de restructuration. Une fois qu'on a saturé le terrain, il faut l'occuper de manière pérenne. C'est assez simple, c'est un processus relativement militaire de base, je dirais, mais la police et la justice en ont les moyens. Mais la problématique, c'est que la réponse ne peut pas être seulement la prison. Il y a une autre réponse à traiter. Et dans certains quartiers, vous avez, c'est le cas à Marseille, c'est le squat est aussi un élément qui doit être pris en considération en même temps que
c'est-à-dire
ce qui est indiqué. Bah, vous avez des immeubles complets qui sont squattés. Vous n'avez pas simplement un ou
les
deux.
Les habitants ont été chassés quasiment.
Les habitants ont été chassés, des groupes ont pris le contrôle. Voilà, il faut voir Banlieue 13. Banlieue 13, ce n'est pas un film, c'est un documentaire.
Absolument. En tout cas, merci beaucoup Alain Bauer de cette analyse fulgurante sur l'état de la police et de nos cités. Au bout de l'enquête, c'est votre livre, saison 2, Les plus grandes affaires criminelles passées au crime. Un tout petit mot, mais alors rapide, sur l'affaire Émile, ce petit garçon qui a disparu depuis, je crois, le mois d'octobre, c'est bien cela. Il y a une nouvelle piste qui mènerait du côté de son grand-père, très grande prudence.
Alors, ce n'est pas une grande piste, d'abord parce que tout ça est connu depuis longtemps, c'est juste qu'il y a un événement judiciaire dans une autre affaire qui met en cause le grand-père pour des sujets qui sont d'ailleurs pas finis du point de vue de l'enquête. Donc c'est une sorte d'audition en cours de route, et cette piste est connue depuis le début, comme beaucoup d'autres.
Mais le petit garçon reste introuvable.
Le petit garçon reste introuvable, comme la jeune fille qui avait disparu dans l'Est. Mm-hmm. Vous avez malheureusement une succession d'affaires extrêmement inquiétantes de ce point de vue-là, qui amènent par leur concentration, leur nombre et le mystère qui les entoure à un certain nombre de spéculations diverses, parfois des grands mouvements de folie dans l'affaire Dupont-de-Ligonnès, par exemple, où on a aussi les mêmes affaires. Tout ça est connu depuis 2012, mm-hmm. mais de temps en temps, une petite reprise technique. Après tout, si ceci peut relancer le marché de l'édition, pourquoi pas.
Voilà, et donc on recommande votre livre Au bout de l'enquête, saison 2, aux éditions First. Merci Alain Bauer.
Merci beaucoup.
Jean-Sébastien Ferjou, Alexandre Devecchio. Dans un instant, Hélène Zellani sur Europe 1, Christine Kelly sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.
18h-19h sur CNews et Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari.